Vous écoutez, on lit pour vous.
Plus de 100 Néo-Brunswickois sans domicile fixe ont perdu la vie en 2025. Un texte publié le 10 janvier 2026 sur le site de Radio-Canada. L'année dernière, au Nouveau-Brunswick, ils sont plus de 100 à avoir connu l'itinérance et avoir perdu la vie ensuite. CBC a mené une vaste enquête en se basant sur les données et affirmations de travailleurs de première ligne et élus municipaux pour dresser ce bilan morbide. Plusieurs travailleurs de première ligne ont évoqué la surdose comme étant la cause la plus commune. D'autres ont plutôt parlé de facteurs menant à de longues périodes d'itinérance. Toujours selon ces travailleurs, certains avaient obtenu un logement peu de temps avant de perdre la vie. D'une municipalité à l'autre, un portrait variable. À Saint-Jean, l'organisme Fresh Start Services fait état de la mort de 38 personnes, 22 sans-abri au moment de leur décès et 16 qui venaient tout juste d'obtenir un logement. Selon l'organisme, le nombre de décès de personnes sans-abri a augmenté constamment ces dernières années, passant de 3 en 2019 à 38 en 2025. À Moncton, le nombre de morts aurait plutôt diminué selon les données qu'a recueillies CBC. Il se situait à 53 en 2024. Selon les informations du YMCA du Grand Moncton et du groupe Facebook The Ragged People, un groupe informel qui vient en aide aux itinérants de la région, 37 personnes sans-abri sont mortes en 2025. À Fredericton, c'est 19 personnes itinérantes qui ont perdu la vie l'an dernier, selon l'organisme Fredericton Homeless Shelters, qui fait aussi état d'une autre personne morte dans une maison de transition. La surdose explique la majeure partie des décès, affirme l'organisme. En 2024, il ne dénombrait que 13 décès. À Saint-Stephen, on fait état de 5 morts, selon Neighborhood Works. Les autorités municipales de Miramichi font pour leur part état de la mort de 2 personnes sans-abri. Entre Nakavik et Plaster Rock, une équipe d'intervention financée par les municipalités et le ministère du Développement social rapporte un décès d'une personne à Woodstock qui semblait être sans domicile fixe. Elle a été retrouvée dans un cabanon qui a brûlé. Des employés municipaux et régionaux d'Edmonton et de la région Chaleur, ainsi qu'un groupe de bénévoles dans le Restigouche, ne font état d'aucun décès de personnes sans abri en 2025. Les commissions des services régionaux de la péninsule acadienne et de Sussex n'ont quant à elles pas fourni de données à CBC. Le nombre de morts est probablement plus élevé. Si on inclut la personne morte dans un cabanon à Woodstock et celle morte dans une maison de transition à Fredericton, on obtient un total de 103 pour l'année. La docteure Sarah Davidson, dont plusieurs patients au centre-ville de Fredericton n'ont pas de domicile fixe, croit que le vrai total est bien plus important, ajoutant qu'il est peut-être très difficile, bien qu'important, de tenir un registre précis de la mort de personnes itinérantes. En raison des conditions précaires dans lesquelles vivent ces personnes, s'ils meurent à l'urgence ou à l'hôpital peu de temps après avoir été admis, ou s'ils meurent à l'extérieur, le nombre total peut être difficile à établir avec précision, explique-t-elle en anglais. Ce total déchirant, mais qui n'est pas une surprise selon elle, pour plusieurs raisons. Leurs problèmes de santé sont souvent moins bien traités, puisque ces personnes doivent favoriser d'autres nécessités. Plus de personnes sont aujourd'hui sans abri selon le médecin. Et la drogue peut aussi, à ses yeux, expliquer en partie cette situation. Pour régler le problème, la médecin conseille la création de logements munis de services, récréatifs et thérapeutiques, et qui n'interdisent pas la consommation de drogue. Nous avons probablement besoin de quelque chose de semblable au foyer de soins spéciaux pour les personnes aux besoins complexes, dit-elle. C'était plus de 100 néo-brunswickois sans domicile fixe ont perdu la vie en 2025. Un texte publié le 10 janvier 2026 sur le site de Radio-Canada.
Les changements sur les vaccins aux États-Unis peuvent affecter leur popularité ici. Un texte de Anna Alberja de la Presse canadienne paru le 6 janvier 2026 dans Le Devoir. Des médecins affirment que les changements radicaux apportés au calendrier de vaccination des enfants aux États-Unis alimenteront l'hésitation vaccinale au Canada. La présidente de l'Association médicale de l'Ontario, la Dr Zainab Abdurrahman, se dit très préoccupée par la confusion que pourraient ressentir les parents lorsqu'ils constateront que les États-Unis et le Canada ont des recommandations différentes en matière de vaccination des enfants. Elle ajoute que cette confusion peut mener à la diffusion d'informations erronées, ce qui pourrait entraîner une augmentation des maladies graves pouvant être évitées. Du point de vue canadien, il faut le voir comme un avertissement, a déclaré Mme Abdurrahman, évoquant la résurgence de maladies évitables qui peut survenir même si la baisse des taux de vaccination est faible, comme ce fut le cas avec les épidémies de rougeole au cours de l'année 2025. Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, CDC, des États-Unis ont mis à jour leur calendrier de vaccination systématique, réduisant le nombre de vaccins recommandés. Plusieurs vaccins utilisés depuis longtemps pour prévenir des maladies telles que le rotavirus et la méningocoque ne sont plus recommandés pour tous les enfants par les CDC. Il en va de même pour les vaccins contre la grippe et le VRS. Ils sont désormais recommandés soit pour certains groupes à haut risque, soit sur la base d'une décision clinique partagée. Selon la Dr Abdurrahman, le calendrier vaccinal canadien reste fondé sur des données scientifiques et, à moins d'un changement dans les preuves, restera inchangé. Chaque vaccin de routine a sa raison d'être, explique-t-elle, et est sélectionné spécifiquement pour la population qu'il dessert. Leur absence jouerait un rôle important dans les résurgences de maladies, ce qui pourrait limiter la capacité des soins de santé. Idées politiques. Faisant écho à ce sentiment, la Dr Joanne Robinson, médecin pédiatre spécialiste des maladies infectieuses à Edmonton, s'exprimant au nom de la Société canadienne de pédiatrie, affirme que le calendrier canadien est basé sur les preuves les plus fiables disponibles et qu'aucune des décisions n'est liée à des idées politiques ou à des rapports anecdotiques. Maxwell Smith, bioéthicien et professeur associé à l'Université Western, affirme qu'à première vue, la décision des CDC de ne recommander certains vaccins qu'aux groupes à haut risque semble raisonnable, mais il ajoute que si le reste de la population n'est pas vaccinée, les agents pathogènes se propageront et exposeront les personnes vulnérables à un risque accru. Le virus ne circulerait tout simplement pas si la population était davantage vaccinée, a résumé M. Smith. Par exemple, l'un des vaccins concernés par ces changements prévient la méningite, une inflammation des membranes qui entourent le cerveau et la moelle épinière. L'immunologiste Dawn Bardish explique qu'un enfant en bonne santé peut en mourir subitement. Pour de nombreux enfants, il est impossible d'intervenir médicalement assez rapidement pour les sauver, donc retirer ce vaccin de la liste recommandée est un véritable mystère pour moi, a-t-elle déclaré. Elle affirme que tout doute semé parmi les parents américains a tendance à se propager au Canada. La Dr Bardish dit que son message aux parents est de considérer que les informations provenant des États-Unis ne sont plus fiables. Cela me peine de le dire, car historiquement, les CDC étaient un leader mondial vers lequel le monde entier. C'était « Les changements sur les vaccins aux États-Unis peuvent affecter leur popularité ici ». Un texte de Anna Alberja de la presse canadienne paru le 6 janvier 2026 dans Le Devoir.
Web caché, gestion de mots de passe et la vie dans le nuage. Un texte d'Alain McKenna paru le 10 décembre 2025 dans la presse. Henry Orban demande « Pourriez-vous nous parler du dark web? Pourquoi est-il obscur? » On utilise souvent cette expression pour faire court sans vraiment l'expliquer. L'adjectif « obscur » ne fait référence à aucune ambiance particulièrement sinistre, mais plutôt à l'invisibilité technique des sites qu'on englobe sous ce terme. Imaginez l'Internet comme un gros iceberg. La pointe émergée est composée de tous ces sites web que vous connaissez, Google, Facebook, la presse. Le web caché est composé de sites inaccessibles par les moteurs de recherche classiques. En fait, on n'y accédera pas non plus par hasard ou par erreur avec Chrome ou Safari. Il faut utiliser un navigateur spécialisé comme Tor, qui chiffre les communications et masque l'identité des utilisateurs en faisant rebondir la connexion partout dans le monde. Cet anonymat total ajoute à l'obscurité de cette constellation de sites web. Si c'est effectivement un terrain propice aux activités criminelles, c'est aussi, paradoxalement, un refuge vital pour les opposants politiques, certains groupes de cyberpirates qui n'ont pas nécessairement tous de mauvaises intentions, et des journalistes dans des pays sous dictature. C'est un espace sans surveillance, pour le meilleur et pour le pire. Luc Olivier demande « Comment s'assurer que les applications de gestion des mots de passe sont fiables? Doit-on se fier à ces applications pour générer un mot de passe robuste? » Confier vos clés numériques à un seul logiciel demande un grand acte de foi. Malgré cela, c'est le choix le plus sûr que vous puissiez faire en attendant la fin de l'authentification par mot de passe. La fiabilité des applications réputées comme 1Password, Bitwarden ou Dashlane repose sur l'architecture zéro connaissance. Vos données sont chiffrées sur votre appareil avant d'être envoyées sur leur serveur. Concrètement, même si l'entreprise se faisait pirater, personne ne pourrait lire vos données car vous seul possédez la clé de déchiffrement. Quant à la génération de mots de passe, la réponse est un grand oui. Le cerveau humain est terrible pour créer du hasard. Les sondages annuels à ce sujet le confirment sans cesse. Nous utilisons trop souvent des modèles prévisibles. Le logiciel crée des chaînes de caractères essentiellement inviolables. Votre seul devoir est de mémoriser une seule phrase de passe complexe, votre mot de passe maître, pour tout protéger. Robert Marchand demande « Est-ce que Microsoft peut unilatéralement fermer mon compte OneDrive ?» sous prétexte que je ne l'utilise pas assez et que je n'ai pas acheté d'espace additionnel? Voir ses souvenirs numériques disparaître est un cauchemar pour n'importe qui. Et en effet, Microsoft se réserve le droit de fermer des comptes, mais pas pour des raisons aussi arbitraires que vous pourriez le craindre. Ce n'est pas le refus de payer, mais l'inactivité prolongée ou le dépassement des quotas de stockage qui finissent par poser problème. Selon les politiques actuelles de Microsoft, si vous n'utilisez pas votre compte OneDrive pendant 2 ans ou si vous dépassez votre limite de stockage gratuite, généralement de 5 gigaoctets, pendant plus de 12 mois, Microsoft peut effectivement en supprimer le contenu. Cela ne se produira jamais par surprise, cela dit. Microsoft vous enverra des avertissements répétés par courriel avant d'agir. Pour dormir tranquille, la solution est simple. Connectez-vous à votre compte OneDrive, sur PC ou sur mobile, au moins une fois par an. Ce petit signe de vie suffira pour confirmer que vous êtes toujours actif sur ce compte. C'était Web caché, gestion de mots de passe et la vie dans le nuage, un texte d'Alain Mekena, paru le 10 décembre 2025 dans la presse.
Quand les élèves reprennent le contrôle sur TikTok. Un texte de Philippe Mercure, paru le 18 décembre 2025 dans la presse. Comment empêcher les algorithmes des réseaux sociaux de contrôler ce qu'on voit, ce qu'on pense et comment on se sent. C'est ce que les animateurs du CIEL, le Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne, enseignent aux enfants. La presse a assisté à un atelier de cet organisme à la mission essentielle, mais qui doit constamment se battre pour son financement. On va maintenant regarder une vidéo TikTok, annonce l'animatrice Dominique Gagnon, à la vingtaine d'élèves de sixième année qui se trouvent devant elle. Des murmures d'approbation parcourent la classe, parce que regarder une vidéo TikTok à l'école par un lundi matin, c'est quand même drôlement mieux que de conjuguer des verbes ou d'additionner des fractions. Nous sommes à l'école primaire Académie Saint-Clément à Mont-Royal. Les élèves assistent à un atelier donné par le CIEL, le Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne. La vidéo montre un adolescent de 16 ans exécuter sa routine matinale. Levé à 4h30, course de 15 km, déjeuner santé. À 6h20, le gars, qui aime par ailleurs se montrer sans chandail, sans une once de gras, fait ses devoirs avant de s'appliquer une crème pour la peau, de se brosser les dents et de filer pour l'école. Dominique Gagnon a maintenant des questions pour la classe. Pensez-vous que c'est vrai? Pourquoi cette personne a-t-elle fait cette vidéo? Qu'est-ce que la vidéo veut que je fasse ou que je pense? Comment une personne pourrait-elle se sentir en regardant cette vidéo? Après une dizaine de minutes en petits groupes pour préparer leurs réponses, les élèves ont presque tous la main levée, avides de se faire entendre. Il se réveille et il est déjà coiffé, ce n'est pas réaliste, on voit qu'il s'est préparé. Il fait ça pour avoir des likes, estime Ali. Ça peut nous rendre jaloux, dit Béatrice, parce que nous, on n'a pas l'énergie de se lever à 4h30 et de courir 15 km. Quelques-uns font remarquer qu'une course de 15 km, c'est quand même costaud pour une routine matinale. Même les gens qui font de la course professionnellement ne courent pas 15 km tous les jours, confirme l'animatrice. Elle rappelle aussi qu'un adolescent doit dormir de 8 à 10 heures par nuit. Le groupe calcule à quelle heure la vedette de TikTok doit se coucher pour pouvoir se lever à 4h30. À 16 ans, disons que c'est tôt en titi. C'est un mélange entre l'admiration et l'infériorité, dit Ta, lorsque vient le temps de dire quel sentiment la vidéo peut susciter. Il a une bonne routine matinale, il est en forme, il mange bien, il se prépare tout seul. On veut le copier, dit Ta, mais on se sent coupable aussi parce qu'on n'a pas une aussi bonne routine que lui. Allumez les jeunes, dites-vous. Dans leurs mots, ils viennent de verbaliser l'un des principaux risques des réseaux sociaux. Se sentir dévalorisé devant l'étalage de vie parfaite et inatteignable qui défile sans fin. Dominique incite les jeunes à se poser systématiquement la question « Comment je me sens après avoir regardé une vidéo ?» Parce que si on regarde des vidéos qui nous font nous sentir mal, à quoi ça sert ? Demande-t-elle. Avouez que la question est excellente. Et qu'il n'y a pas que les enfants qui devraient se la poser. Les jeunes qui sont ici n'ont pas encore l'âge légal, 13 ans, pour ouvrir leur propre compte sur les réseaux sociaux. Plusieurs en possèdent néanmoins un ou plusieurs. Et tous, sans exception, regardent des vidéos en ligne. Si le groupe a vu clair dans les risques que peut susciter la vidéo de l'adolescent se mettant en scène sur TikTok, il tombe toutefois dans le panneau de Dominique lorsqu'elle leur demande qui choisit les vidéos qu'ils regardent. « C'est nous », lancent les enfants en chœur. Sans leur donner tort, Dominique leur fait réaliser qu'il y a aussi un algorithme qui leur pousse certaines vidéos. Un algorithme qui favorise le contenu qui est populaire, qui fait réagir et qui s'apparente à ce qu'ils ont déjà regardé, commenté ou partagé. La discussion porte alors sur les risques de voir le monde avec des œillères de cheval, en étant toujours exposés au même type de contenu. Dominique fait remarquer aux enfants que les vidéos qu'ils voient influencent leur vision du monde, leurs pensées, leurs comportements, leurs goûts, jusqu'à leur estime d'eux-mêmes et leurs amitiés. S'ensuivent des trucs techniques pour signaler des vidéos inappropriées ou jugées non intéressantes afin qu'elles ne soient plus présentées, pour filtrer le contenu en excluant certains mots-clés ou pour carrément réinitialiser l'algorithme lorsqu'il nous envoie des vidéos qui ne conviennent pas. Curieux, les jeunes posent des questions pour s'assurer qu'ils ont bien compris comment faire. En tant que père d'un fils qui est en sixième année, je peux en témoigner. Ce genre d'atelier plonge directement dans la réalité des jeunes. Et je souhaiterais fort que Fiston puisse en bénéficier. Ciel, pourtant, doit sans cesse se battre pour sa survie. À quelques jours de la fin de l'année, il vient tout juste de se voir accorder la subvention du ministère de la Santé pour poursuivre ses activités l'an prochain. Un soupir de soulagement, mais qui vient terriblement tard pour l'organisme qui, jusqu'à cette semaine, ne pouvait toujours pas confirmer à sa douzaine d'employés qu'ils auraient encore du boulot en janvier. C'est malheureusement très normalisé dans le milieu des organismes sans but lucratif. On n'a aucune prévisibilité, dit Emmanuelle Parent, cofondatrice et directrice générale du Ciel. Ciel est né avant la pandémie, d'une rencontre entre deux personnes. Charles-Antoine Barbeau-Meunier, alors étudiant en médecine, et Emmanuel Parent, qui menait à l'époque un doctorat sur l'utilisation des réseaux sociaux chez les ados. Ils ont uni leurs forces et celles de l'entrepreneur et photographe Alexandre Champagne pour fonder l'organisme qui, cette année, aura donné 2000 ateliers dans les écoles primaires et secondaires de presque partout au Québec, rejoignant 25 000 élèves. À 31 ans, je suis la doyenne de l'équipe, souligne Emmanuel Parent. C'est vraiment une initiative fondée par et pour les jeunes. On est une gang de jeunes qui veulent parler à d'autres jeunes de choses qu'on aurait voulu savoir à leur âge. Mon petit doigt me dit que chaque cent investi dans une telle initiative permet d'en sauver des tonnes plus tard en problèmes de toutes sortes. Parce que c'est avec des jeunes bien outillés pour naviguer dans le monde moderne qu'on bâtira une société solide. C'était « Quand les élèves reprennent le contrôle » sur TikTok, un texte de Philippe Mercure paru le 18 décembre 2025 dans La Presse.
La lumière disparaît. Comment lutter contre la dépression hivernale dans le Nord? Un texte d'Élodie Roy, publié le 2 décembre 2025 dans Médias Ténois. Le manque de lumière durant notre hiver nordique influence fortement la santé mentale. Les recherches montrent une hausse de troubles et une éco-anxiété accentuée par les changements climatiques. Malgré ça, on y trouve des stratégies comme le soutien culturel, la luminothérapie et des activités collectives. Dans le nord canadien, l'arrivée de l'hiver transforme le quotidien. De Yellowknife à Inuvik, le soleil disparaît parfois pendant plusieurs jours, plongeant les communautés dans une obscurité quasi permanente. Cette absence de lumière n'affecte pas seulement les paysages. Elle agit directement sur la santé mentale des habitants. Un phénomène documenté, le trouble affectif saisonnier. Depuis plusieurs décennies, les chercheurs s'intéressent à l'impact du manque de lumière sur l'humeur et le bien-être. Une étude menée dans une communauté inuite au-delà du cercle arctique révèle que 6% des résidents souffrent d'un trouble affectif saisonnier. Et que près de 40% ressentent une forte influence des saisons sur leur énergie et leur humeur. Les symptômes vont d'une fatigue accrue jusqu'à une perte de motivation en passant par un renfermement social. D'autres recherches, effectuées dans des centres de santé mentale du Nord, montrent que le trouble affectif saisonnier peut toucher environ 20 % des patients cherchant de l'aide durant les mois sombres. Ces chiffres, plus élevés que dans le sud du Canada, illustrent les défis spécifiques auxquels font face les communautés nordiques. Le rôle du changement climatique. À ces données saisonnières s'ajoutent aussi les effets du changement climatique. Les chercheurs du Nunatsiavut, N-U-N-A-T-S-I-A-V-U-T, et d'autres régions circumpolaires observent que la météo devient moins prévisible. Glace instable, périodes sombres prolongées, hiver plus humide. Ces transformations entraînent ce que les psychologues appellent l'éco-anxiété, le deuil écologique ou un sentiment de perte lié au changement du territoire. Pour les peuples autochtones du Nord, notamment les Inuits, les Quinch, In et les Dénés, ces bouleversements représentent non seulement une menace matérielle, mais aussi une atteinte aux liens culturels et spirituels avec la Terre, un élément central du bien-être mental. Quelle solution? Malgré ces défis, les habitants du Nord ont développé une forte résilience. Luminothérapie et sorties quotidiennes, même par faible luminosité, activités communautaires, rituels culturels, rythme de sommeil structuré. Ces éléments jouent un rôle clé dans la prévention des symptômes saisonniers. Les psychologues recommandent également d'augmenter l'exposition à la lumière naturelle dès qu'elle est disponible, parfois pendant une courte fenêtre de quelques heures. Des programmes communautaires, souvent axés sur la culture et la connexion au territoire, contribue aussi à renforcer la santé mentale et l'identité collective. Les recherches sont claires. Lumière, saison et climat influencent fortement la santé mentale dans le Nord canadien. En reconnaissant ces réalités et en soutenant des solutions adaptées aux cultures et aux environnements nordiques, il devient possible d'accompagner plus efficacement les communautés. Dans un monde où les saisons changent plus vite que jamais, comprendre cet équilibre fragile entre lumière et obscurité est essentiel pour protéger le bien-être de ceux qui vivent au cœur du Nord. C'était « Quand la lumière disparaît. Comment lutter contre la dépression hivernale dans le Nord? » Un texte d'Élodie Roy, publié le 2 décembre 2025 dans « Médias » des Noix.